De retour sur le plateau en direct, place de l'Accalade pour la COP d'ici. On vous rappelle que vous pouvez venir toute cet après-midi pour découvrir ou redécouvrir de nombreuses associations qui se battent pour nous, pour le climat, pour l'environnement, pour l'écologie. Nous étions avec Énergie 2050 à l'instant au téléphone. On s'excuse aussi auprès de nos auditeurs et auditrices. Il y a eu une petite coupure qui n'était pas volontaire, mais bon, voilà, c'est les aléas du direct. On les aime bien. Ce n'est pas du tout grave. À l'instant, vous venez d'entendre Julien Doré et son titre La Fièvre, et nous continuons nos interviews avec CCFD Terre Solidaire, qui est représentée aujourd'hui par Martine Arnaud. Bonjour Martine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous parler justement de votre association CCFD Terre Solidaire. Qu'est-ce qui se cache derrière ce sigle CCFD Terre Solidaire?
Alors, le comité catholique contre la faim et pour le développement. Mais bien évidemment, la chose importante à comprendre immédiatement, c'est que nous sommes une solidarité en marche au niveau international. Nous sommes maintenant une ONG, la première ONG de France, ce qui nous permet de faire des plaidoyers. Et puis notre but, bien évidemment, c'est de mener en fait aujourd'hui 4 combats. Nous avons une justice économique bien à cœur. Ensuite, nous allons travailler sur la souveraineté alimentaire, mais aussi la paix et le vivre ensemble, et bien évidemment les migrations internationales, puisque nous travaillons beaucoup sur la justice climatique aujourd'hui. Nous avons fait partie de la COP d'ici, nous avons participé à différentes conférences, différentes actions, et nous comptons bien évidemment continuer ici ce que nous faisons aussi à l'international.
Alors effectivement, quand on entend CCFD, on entend crise alimentaire finalement et le combat qu'il peut y avoir contre cette crise. Est-ce que vous êtes là aussi pour nous rappeler que finalement tous les combats ne sont pas uniquement contre le dérèglement climatique, mais qu'en fait il ne faut pas oublier qu'il y a des combats qui sont présents depuis très longtemps et qu'il ne faut pas oublier qu'il faut continuer à s'engager?
Alors figurez-vous que nous avons 60 ans d'existence, et depuis 60 ans nous avons commencé bien sûr par, comme tout le monde, creuser des puits, aider nos partenaires à creuser des puits, parce que je voudrais signifier une chose très importante pour nous. Nous travaillons avec des partenaires. Ce sont eux qui nous présentent des projets. Si ces projets sont exactement dans nos valeurs, quelle que soit leur origine, bien évidemment, nous sommes catholiques, 30 mouvements catholiques au départ, mais ça ne nous intéresse pas a priori. Ce qui nous intéresse, c'est des valeurs communes. Et à partir de là, nous engageons avec nos partenaires quelquefois des échanges à long terme. Alors sous le point de leur apporter un appoint financier, mais aussi une expertise. Voilà, alors bien sûr, le changement climatique, tout le monde le sait, on ne va pas raconter d'histoire. On a vu nos scientifiques en rébellion qui étaient là, nous avons participé avec eux. Mais tout cela est lié aussi bien sûr à la justice sociale, à la justice économique. Nos partenaires aussi sont quelquefois amenés, de par l'injustice sociale et le changement climatique, à migrer. Ce qui fait que nous sommes aussi très importants dans la région, dans le domaine de l'immigration. Nous accompagnons des migrants, nous les soutenons et nous travaillons bien sûr avec d'autres associations dans ce domaine.
Tu as abordé le terme de justice économique, justice sociale. Il y a bien sûr la justice climatique. Qu'est-ce que c'est la justice climatique?
Alors, la justice climatique, pour nous, ce serait déjà de ne pas... Bon, dans la zone nord,
oui, bien sûr,
n'est-ce pas? Chez nous, les plus riches.
Oui.
De continuer de faire en sorte que dans les pays pauvres, nous ayons la chance, bien évidemment, de récupérer toutes sortes de minéraux et autres choses, et que eux, par contre, soient amenés à ne pas bénéficier de ce dont nous avons bénéficié pendant très longtemps. Mais pas au profit de qui que ce soit, si ce n'est de nous, mais par contre au détriment de la justice climatique, parce que en fait nous détériorons l'Amazonie, nous détériorons les grandes mines qu'on connaît à ciel ouvert. Enfin, moi j'ai beaucoup bourlingué dans le monde et nous savons très très bien que nous faisons partie de cette injustice. Hein. Nous sommes partie prenante, les grandes entreprises, les entreprises internationales, dans les mines Canada notamment, etc.
Ce qui est assez terrifiant, c'est que bien sûr les premiers impactés par cette crise climatique, ce sont des pays qui ne sont pas à l'origine de cette crise climatique. Donc
oui.
C'est assez désolant. Tu utilisais un autre terme, je vais continuer un peu dans le vocabulaire, ça ne te dérange pas? Parce que c'est vraiment vraiment. Il y a deux termes qui m'ont envoyé, justice climatique.
Il n'y a pas de souci.
Et à l'autre terme de souveraineté alimentaire.
Oui.
Tu évoquais quoi par ça?
Alors, le problème de la souveraineté alimentaire, c'est que nous avons par exemple un partenaire au Mali et qui est dans l'agriculture. On a d'autres partenaires aussi et on s'occupe énormément d'accompagner des leaders dans certains pays pour lutter contre l'emprise des entreprises internationales. Donc c'est notre but, étant donné que nous avons notamment des partenaires qui sont des pêcheurs, et ces pêcheurs voient en fait leur vie complètement bouleversée au point de vouloir migrer, parce qu'il y a des grosses entreprises, notamment chinoises, qui ont mis la main sur tout ce qui est pêche dans les régions africaines notamment.
Tu parlais donc de combats qui sont à la fois, donc avec Victor, de combats qui sont sociaux, qui sont environnementaux.
Oui.
Vous avez la première question de Victor m'a intéressé parce que souvent, je veux avoir quand même juste ton avis individuel. Qu'est-ce que tu penses des gens qui reprochent cette convergence des luttes? C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui disent non, mais je vois pas pourquoi un combat environnemental serait mêlé à un combat social. Parce que ça, je voulais juste avoir ton avis à toi, personnel.
Bon,
oui,
alors mon avis personnel, moi j'ai bourlingué, je me suis occupée à l'époque avec mon époux d'intervenir dans des bidonvilles, d'intervenir en Inde, en Amérique latine notamment, et à Madagascar. Comment peut-on parler de ne pas lier, notamment à Madagascar, qui devient l'île rouge alors qu'elle était toute verte, hein, les combats que nous menons, c'est pas possible.
Oui.
Je pense que certaines personnes ont très peur, très très peur de ce que cela peut représenter en fait. Je crois qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'ignorance. Et puis en Europe, effectivement, malgré tout, même s'il y a des choses très très difficiles et que même ici à Nîmes, il y a des personnes qui sont dans un état de pauvreté et d'injustice sociale criante, eh bien en fait en Europe, il y a quand même encore un certain bien-être, une certaine... Voilà, je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir, qui ne peuvent pas voir. Alors moi, j'étais enseignante et j'ai enseigné, bien sûr, la notion de colibri. Je suis partie prenante pour le colibri et je pense que c'est très important. Mais le colibri, c'est aussi puce-toi. C'est une question de conscience individuelle.
Est-ce que tu peux rappeler très rapidement aux auditeurs ce que c'est la théorie du colibri?
La théorie du colibri, hein, c'est une histoire, c'est une légende. Hein. Donc, il y a un très grand incendie et tous les gros animaux de la jungle fuient. Parce qu'ils ont très peur du feu, ce qui est tout à fait logique. Hein. Mais il y a quand même un éléphant qui a un peu essayé d'attraper un peu d'eau, puis de crachouiller, là. Et puis, il y avait un petit oiseau, un colibri. Alors, le colibri, c'est vrai que c'est plutôt un symbole sud-américain. Et donc, ce colibri, lui, il a pris une petite goutte, et puis une petite goutte, et puis avec l'éléphant, le colibri, et puis tous les petits colibris, toutes les petites gouttes, et bien, quelque part, l'incendie, c'est... achevé.
Donc bien sûr, le message, c'est la puissance de l'action individuelle.
Tout à fait.
Au-delà de l'action gouvernementale.
Oui. Il faut les deux.
Encore un petit aléa du direct. Nous avons la pharmacie de l'horloge qui fait son réapprovisionnement.
Et un festival de danse à côté.
Et nous avons un festival de danse également à côté. Voilà.
Alors,
c'est ça aussi une agora citoyenne.
Voilà,
hein.
Exactement. Alors vous parliez de ce que vous faisiez. Donc à l'époque, vous parliez depuis de création.
Oui,
depuis,
c'est ça.
Est-ce que vous pouvez un peu détailler les actions que vous avez réalisées dernièrement?
Alors dernièrement, un peu dans le monde entier, nous avons des actions en agroforesterie. Nous allons recevoir au mois de mars un partenaire brésilien, parce que tous les ans nous recevons un partenaire. Et l'année dernière c'était un partenaire mexicain, c'était plutôt quelqu'un qui était dans la lutte citoyenne et dans tout ce qui était l'accompagnement aussi des familles de disparus, grave problème au Mexique notamment. Et là cette année nous allons avoir quelqu'un qui viendra nous parler bien évidemment de l'extraction, de l'agroforesterie et de tous les problèmes du Brésil. C'est pour ça que nous avons aussi donc des personnes qui sont des partenaires en Inde, des partenaires en Afrique, qui sont donc dans la pêche, qui sont dans la culture vivrière, qui sont dans le domaine de l'agroforesterie aussi en Afrique. On en a un peu partout. Et le but, c'est de recevoir leurs projets, de réfléchir ensemble. Les bénévoles sont très partie prenante, de réfléchir ensemble, d'accepter leur projet, de les aider à le mettre en place et de l'accompagner tout au long de la réalisation du projet. Hein. Avec des finances, nous avons des donateurs, nous vivons comme ça, nous avons des donateurs, des finances et puis bien évidemment des experts que nous leur envoyons gratuitement.
Quels sont les plus gros obstacles que vous avez dans la mise en place de vos actions ?
Aujourd'hui, dans la mise en place de nos actions, c'est dans certains pays d'avoir la possibilité d'accompagner, entre guillemets, hein, librement nos partenaires, parce que bien évidemment, nous avons des partenaires qui sont en situation de danger. Ils peuvent être emprisonnés quand ils font partie de certaines associations. Nous avons des partenaires en danger. Nous avons des partenaires aussi qui disparaissent, qui sont assassinés.
Si, par exemple, tu évoquais, du coup, vous avez une implication clairement internationale.
Oui.
Clairement internationale.
Oui, nous faisons des plaidoyers aussi. Nous sommes une ONG, nous faisons des plaidoyers pour la justice.
En fait, ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué parce qu'au final, vous êtes face à différents acteurs.
Oui.
Les acteurs étatiques,
oui.
Les entreprises, bien sûr, les acteurs des,
oui.
Des intérêts privés.
Oui.
Et est-ce que vous avez, du coup, comment ça s'articule au niveau local ? C'est-à-dire que, par exemple, là, vous êtes présent pour la COP d'ici.
Oui.
Je présume que, bien sûr, vous ne pouvez pas faire que des actions à l'international. Comment ça se passe au niveau local ? Par exemple, dans les environs de Nîmes, si on souhaite intégrer ce type d'assaut, est-ce que vous êtes présent dans certains endroits ? Comment ça se déroule ?
Alors, nous ne sommes pas présents normalement, de façon systématique, là, ici, en local. Nous avons, bien évidemment, une équipe locale, une équipe régionale qui est à Montpellier. Nous appartenons à une équipe plus grande qui est l'Occitanie, et tout remonte ainsi. Hein. Bon. Mais nous avons pris le parti, l'année dernière, d'être sollicités au niveau des migrants par la communauté latino-américaine qui se trouve à Beaucaire. Et nous avons découvert avec donc certaines personnes donc la situation des saisonniers. Et nous avons bien évidemment pris la décision, puisque nous avons des documents qui sont produits par le CCFD, d'intervenir. Nous intervenons dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles. Et nous présentons des documents que nous avons pris en charge, que nous avons diffusé. Là, dernièrement, nous venons de diffuser un document que nous avons diffusé aussi au Sémaphore. Ce document, donc, qui était un document sur la migration, mais sur la migration pour les saisonniers. Et plus particulièrement, pas très loin dans la région, sur des saisonniers qui viennent dans des domaines agricoles. La situation très difficile. Et il se fait que toute la migration saisonnière maghrébine, qui était la migration la plus importante, est en train d'être remplacée par une migration latino-américaine. Avec deux situations bien particulières chez les latino-américains. Certains sont passés par l'Espagne, ils ont une carte espagnole, d'identité espagnole. D'autres sont venus par des voies moins légales. Et alors là, nous sommes devant des personnes en illégalité qui sont dans une situation beaucoup plus délicate. Beaucoup plus délicate. Mais ça grandit. Ça grandit. De plus en plus de Boliviens, de plus en plus de Colombiens. Au départ, c'était presque que des Équatoriens. Et nous les accompagnons, parce que là, nous avons débuté quelque chose avec eux, nous les accompagnons.
Dans cet accompagnement, bon, quand on voit la montée de l'extrême droite, quand on voit M. Darmanin, qui est notre ministre de l'Intérieur, est-ce qu'au niveau étatique, c'est compliqué ?
Oui, alors de toute façon, le CCFD a des décisions absolument claires là-dessus. Il n'est pas question que cela ne corresponde pas à notre éthique. Et par contre, bien évidemment, nous ne sommes pas un parti politique. Hein.
Oui, bien sûr, bien sûr. Oui,
voilà.
Oui.
D'accord. Mais nous avons en fait, bien sûr, le Laudato Si, hein, du pape, et tout ce qui concerne la fraternité universelle. Voilà. Mais voilà, pas de politique.
Merci beaucoup Martine Arnaud d'avoir été avec nous, d'avoir représenté CCFD Terre Solidaire. On peut vous retrouver justement sur Place de la Calade, sur l'Agora citoyenne de la COP d'ici. On vous attend nombreux et nombreuses face au Théâtre de Nîmes, au cas où si Place de la Calade n'était pas assez précis pour vous. On va se quitter un tout petit instant, le temps d'écouter une musique, non pas celle de la danse, mais une musique sur le thème de l'écologie, de l'environnement. Et on se retrouve juste après avec Scientifique en rébellion, représenté par Florence Voller. À tout de suite.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Martine.